15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on prépare le mois sans tabac. Et oui, novembre approche à grands pas et j'espère que vous êtes nombreux, les fumeurs, à vouloir vous lancer dans ce challenge de groupe. En tout cas, moi, c'est sûr, je vais me lancer. On se moque pas, ce sera ma 5e tentative d'arrêt du tabac. Je dis tout aujourd'hui dans son rendez-vous avec notre invité, le tabacologue Olivier Smadja. On fera le point sur toutes les méthodes d'aide à l'arrêt qui ont prouvé leur efficacité. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du Nutri-Score, ce score qui permet de mieux choisir ses aliments au supermarché. Quand il est affiché sur l'emballage, eh bien, il nous parlera aussi d'une pétition qui demande que cela devienne obligatoire pour tous les industriels de l'agroalimentaire. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de la chlamydia, une infection sexuellement transmissible en forte augmentation. En ce moment, on fera le point sur son dépistage et bien sûr sur son traitement. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des problèmes d'érection qui peuvent parfois, à tort, provoquer une grande humiliation chez les hommes, à tort parce que tout simplement, hommes ou femmes, on peut tous avoir de petites défaillances, c'est humain.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Barbara, 29 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai entendu dire qu'on pouvait avoir du lait sans être enceinte et ça m'intrigue, donc j'aurais voulu en savoir plus. Merci pour vos réponses.
Alors Jimmy, quand il y a du lait qui coule donc des seins, enfin en tout cas un écoulement, ça a un nom, ça s'appelle une galactorée dans le jargon médical, hein, c'est ça ?
Alors là vous me posez une colle Mélanie, je
dois vous avouer j'adore que quand vous faites ça.
J'ai pas eu le temps de réviser mais on va essayer de répondre quand même. Donc oui, effectivement ça s'appelle la galactorée, c'est lorsqu'il y a un écoulement au niveau du mamelon qui est plutôt blanc, d'aspect laiteux, cailleux, et il est souvent provoqué par la palpation. Il est rarement spontané et il est plus souvent bilatéral, c'est-à-dire qu'il atteint les deux seins. Et la galactorée, en soi, n'est que le symptôme d'une maladie éventuelle sous-jacente qui n'est retrouvée seulement dans 40% des cas. Donc dans 60% des cas, on ne connaît pas la cause de, de cet écoulement.
Et donc dans les 40% restants, quand même, on peut identifier une cause. Donc c'est quoi la cause en général ?
La galactorée est liée à ce qu'on appelle une hyperprolactinémie. La prolactine est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau, et qui est responsable de cet écoulement.
Donc de l'allaitement aussi en général.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Lors de l'allaitement, il y a une hyperprolactinémie qui fait qu'on a du lait de façon naturelle en situation d'allaitement. Et donc cette hormone peut être augmentée, et elle peut augmenter par plusieurs causes. La première, c'est d'une petite tumeur au niveau de l'hypophyse, qui fait que cette hypophyse va être stimulée et sécréter beaucoup de prolactine, et donc sécréter le lait qu'on va avoir au niveau du sein. On peut aussi avoir au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc dans le cerveau, qu'est-ce qui sécrète les hormones. Ah oui, que croyez-vous, Madame Gomez? Et donc ça permet, lorsqu'il y a une petite compression, lorsque cet axe est atteint, on peut avoir justement une sécrétion encore inadaptée de prolactine. On a d'autres maladies qu'on dit infiltrantes, comme par exemple la sarcoïdose, qui peut donner une atteinte pulmonaire, mais aussi neurologique. On a aussi des maladies en dehors du système nerveux central, au niveau des ovaires, le syndrome des ovaires polykystiques.
On en a déjà parlé, effectivement.
Donc on en a parlé, qui peut donner ça. Et puis enfin, il y a une cause qu'on oublie souvent, c'est la cause médicamenteuse. Plein de médicaments ont une action au niveau de la prolactine, notamment les corticoïdes, les antiandrogènes, certains psychotropes, des antivomitifs qu'on néglige souvent et certains traitements antihypertenseurs.
Alors, dites-nous quand même rapidement comment on soigne finalement tout ça. Il y a des médicaments quand même.
On ne traite pas le symptôme, on traite la cause. Donc, si jamais il y a une petite tumeur, on va l'opérer. Si vous prenez des médicaments qui sécrètent cette prolactine, on va les arrêter. Donc, il faut retrouver la cause pour se débarrasser du symptôme.
Merci, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Aurélia, 32 ans, on l'écoute.
Bonjour, Mélanie. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Alors, j'ai un collègue qui mange des fruits avant le repas. Pour moi, c'est un petit peu étrange parce que pour moi, les fruits, c'est le dessert. Mais il m'a dit que ça aidait à mieux digérer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Merci de vos réponses.
Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de nutritionnistes même qui conseillent de commencer donc le repas par les fruits, parce que ce changement de place, finalement avant c'était toujours le dessert, c'est intéressant ou pas, Jimmy?
Alors c'est vrai que c'est une question qui fait débat, les nutritionnistes ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Certains disent que si on mange le fruit en fin de repas, eh ben vous avez un estomac qui est plein, et lorsque l'estomac est plein, vous rajoutez des fruits qui vont faire que ça va fermenter,
ah oui,
et vous aurez une digestion plus difficile avec des ballonnements, et que vous allez souffrir de reflux et autres. Mais c'est pas la théorie qui est forcément retenue.
Mais si on les mange au tout début du repas, de toute façon, dans l'estomac, tout finit ensemble. Donc en fait, l'idéal serait peut-être les manger carrément en dehors des repas.
Oui, alors certains proposent de faire ça une heure avant le repas. Ça permettrait finalement d'amorcer le repas avec un peu plus de satiété. Donc
oui,
finalement,
parce qu'il y a des fibres,
allez, exactement.
Ça,
donc
ça,
vous allez peut-être un peu moins manger. Et certains avancent l'hypothèse que les nutriments seraient mieux absorbés si on les mange à distance du repas. Il n'y a rien qui le prouve scientifiquement. Au contraire, un exemple tout bête, la tomate, si elle est assimilée avec d'autres produits, notamment des lipides qu'on trouve dans l'huile d'olive, eh ben on peut extraire les caroténoïdes contenus dans la tomate. Donc ce serait mieux en mangeant en même temps. Donc
bon, il n'y a pas de consensus, mais en fait, il faut manger des fruits.
Des fruits et légumes,
voilà, il faut en manger. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Aurélia qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du Nutri-Score et d'une pétition qui demande qu'il soit rendu obligatoire pour tous les industriels de l'agroalimentaire. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le tabacologue Olivier Smadja, avec qui on va bien préparer l'opération Moi sans tabac qui commence ce vendredi. Avis à tous les fumeurs, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le tabacologue Olivier Smadja, qui va nous aider à bien préparer le mois sans tabac, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du Nutri-Score. D'abord, c'est quoi le Nutri-Score?
Alors avant de parler du Nutri-Score, vous savez que quand on achète des aliments pré-emballés, on a sur le côté, sur la tranche, tout un décryptage où on nous explique ce qu'il y a comme sel, comme sucre,
oui,
comme calories.
Tout illisible.
Exactement.
Quoi.
Et le problème, c'est que personne n'y comprend rien. Même les médecins, parfois, ont du mal à s'y retrouver. Donc, imaginez pour le grand public. Et du coup, dans le cadre de la loi santé de 2016, le gouvernement français a décidé de mettre en place une information nutritionnelle beaucoup plus claire, visible et facile à comprendre de tous. L'objectif, c'est finalement de mieux choisir et de consommer en toute conscience de ce qu'on achète. Et c'est ce qu'on appelle le Nutri-Score.
Avec le code couleur ABCDE, ça donne quoi sur une boîte de céréales, par exemple?
Et ben exactement, ben sur une boîte de céréales, on a c'est le Nutri-Score qui a été retenu. Et ben vous avez un logo à 5 couleurs qui est posé à la face avant des emballages et plus sur le côté. Et ce Nutri-Score, il permet d'avoir une information sur la qualité nutritionnelle d'un produit. Et chaque produit est ainsi positionné sur une échelle qui va de A à 5. A, c'est ce qui est le plus favorable sur le plan nutritionnel.
Ouais.
Et E, c'est ce qui est le plus défavorable sur le plan nutritionnel. Et lorsque c'est mis en avant, bah, ça saute aux yeux et vous pouvez savoir ce qui se passe.
Et comment il est calculé, ce Nutri-Score?
Alors, pour classer chaque produit, c'est des équipes qui ont fait qui ont mis en place ce score. On a pris en compte pour 100 grammes de produits la teneur en nutriments et aliments qu'il faut favoriser. Donc, tout ce qui est fibres, protéines, et notamment les fruits et légumes, et tous les nutriments qu'il faudrait limiter. Tout ce qui est riche en énergie, en acides gras saturés, en sucre et en sel. Après ce calcul, on a un score par produit qui permet de lui attribuer une lettre et une couleur.
D'accord. Et c'est super tout ça, mais pourquoi du coup il y a une pétition, c'est pas obligatoire partout?
Eh ben, le problème c'est ça, c'est que ce n'est pas obligatoire sur tous les aliments et c'est à l'échelle européenne.
Moi j'ai même remarqué qu'il y a des industriels qui le font pas sur tous leurs produits,
oui,
ils font quelques-uns, pas tous.
Et donc forcément, bah, ils le font souvent sur les produits les plus intéressants pour se donner une bonne conscience, une bonne image. Et puis les produits auxquels vous n'avez pas de Nutri-Score, bah, bien souvent c'est ceux qui auraient la lettre D ou E. Et donc il y a une pétition qui est lancée pour que ce Nutri-Score soit mis en place à l'échelle européenne et obligatoire pour tous les produits. Or, évidemment, poisson, viande, c'est tous les produits transformés.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Olivier Smadja, tabacologue. Il est surtout le responsable de Tabac Info Service à Santé Publique France.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Olivier Smadja.
Bonjour.
Alors, l'opération Moi sans tabac, ça débute vendredi et c'est la 4e édition. Juste si on fait un bilan rapidement de celle de l'année dernière, d'opération Moi sans tabac, on peut dire que ce challenge-là d'arrêter de fumer tous ensemble au mois de novembre, c'est plutôt un succès, non, quand même?
Oui, c'est un très beau succès. L'année dernière, on a eu plus de 240 000 fumeurs qui ont tenté l'aventure avec nous et qui se sont inscrits à Moi sans tabac.
Ils
et
ont
cette
arrêté
année,
on ne sait pas ça.
Alors, on ne sait pas encore s'ils ont arrêté, mais ce qu'on sait, c'est que dans les évaluations qu'on a fait les années précédentes, On avait environ 20% des fumeurs qui avaient fait une tentative d'arrêt avec Moi Sans Tabac, qui étaient toujours non-fumeurs 6 mois après leur tentative d'arrêt.
Pas mal.
Et donc ça, c'est un très beau succès.
Pour participer, on peut s'inscrire sur un site, le site officiel de Moi Sans Tabac. Pourquoi il faut s'inscrire? C'est quoi l'avantage?
Alors l'avantage de s'inscrire, c'est que pendant toute la durée du Mois Sans Tabac, on va recevoir des messages d'encouragement, de félicitations, des conseils. Et puis on peut bénéficier gratuitement d'un kit d'aide à l'arrêt du tabac qui est commandable gratuitement sur le site de tabacinfoservice.fr.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce super kit?
Alors dans ce kit, il y a beaucoup de choses. Il y a un livret pour préparer son arrêt du tabac, choisir sa stratégie, choisir son traitement. Un agenda 30 jours pour, pendant toute la durée du Mois Sans Tabac, avoir des informations sur ce qu'on gagne à arrêter de fumer, avoir des messages d'encouragement, des félicitations. Il y a une roue qui permet de savoir combien on économise en arrêtant de fumer.
Ça, c'est le mieux, ça, moi, je trouve. Moi, j'ai déjà fait un mois sans tabac il y a 3 ans. Et donc, ça n'a pas marché, hein, puisque j'en suis encore là, je recommence aujourd'hui.
Mais vous avez raison de continuer à essayer.
Mais l'argent, ça motive, hein, les fumeurs.
L'argent, c'est une des premières motivations des fumeurs. Et puis, aujourd'hui, le tabac coûte très cher. Et dans quelques jours, il va coûter encore plus cher. Et donc, on voit très vite les économies qu'on réalise en arrêtant de fumer. Et le dernier outil du kit, c'est un petit livret qui permet de faire des exercices de respiration, de relaxation, pour arrêter tranquillement le tabac.
Dans la zénitude. Et ce kit, on le reçoit, mais il faut le payer ou c'est gratuit?
Tout est gratuit. Ce kit, il suffit tout simplement, comme vous le disiez, de s'inscrire sur le site de tabacinfoservice.fr. Quand on s'inscrit, on peut gratuitement commander et recevoir le kit de Moi Sans Tabac.
Je le sais, je l'ai fait ce matin, alors je vais voir si je vais le recevoir chez moi. J'espère que je le recevrai avant le 1er novembre, on va voir. Est-ce qu'on sait si le fait d'arrêter en groupe comme ça, tous ensemble au mois de novembre, enfin ensemble avec des collègues, des amis ou même des gens qu'on ne connaît pas, est-ce que ça aide vraiment d'arrêter en groupe? Ça a été mesuré?
Oui, arrêter en groupe, ça aide vraiment. Ce qu'on sait, c'est que arrêter de fumer, c'est difficile de manière globale. Arrêter tout seul, c'est encore plus difficile. Arrêter en groupe, ça permet de renforcer quelque chose qui est très important pour les fumeurs, c'est la confiance qu'on a dans sa capacité à réussir son arrêt. Et donc, quand on arrête à plusieurs, que ce soit avec des amis, des collègues, son conjoint, etc., au fond, ça permet de renforcer sa capacité à croire qu'on peut y arriver.
Merci Olivier Smadja. On va poursuivre ce coaching pour nous aider à arrêter de fumer. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on se lance. Le Mois Sans Tabac, ça commence vendredi et ça se prépare un tout petit peu, un arrêt du tabac, même si c'est pas votre première tentative. Je vous donne un chiffre pour vous donner du courage. Il faut en moyenne 5 tentatives pour se débarrasser définitivement de cette addiction et on va vous donner plein de conseils pour y arriver. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous, vous êtes tous les bienvenus. Alors aujourd'hui, si vous envisagez d'arrêter de fumer ou que vous voulez encourager un proche qui va se lancer, restez à l'écoute. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et surtout notre invité, Olivier Smadja, tabacologue et surtout le responsable de Tabac Info Service à Santé Publique France. Alors l'opération Moi Sans Tabac, monsieur Smadja, ça débute vendredi. Bon, je vais pas mentir à nos auditeurs, moi aussi je vais y participer. D'ailleurs, je suis inscrite depuis ce matin. On peut être journaliste santé et avoir quelques vilains défauts, c'est possible. Moi, ça sera ma 5e tentative d'arrêt du tabac. Bah, j'ai un peu honte, hein, mais je crois que je suis dans la moyenne hein, finalement.
Oui, c'est vrai, vous êtes dans la moyenne. Et puis, je crois ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est qu'il y a des fumeurs qui arrivent à arrêter dès la première tentative. Pour d'autres fumeurs, il va falloir 3, 4, 5, parfois plus de tentatives d'arrêt du tabac. Ça dépend beaucoup de l'intensité de la dépendance à la cigarette. Et puis, tous les fumeurs sont différents. Donc, ces moyennes, je ne sais pas si elles veulent dire vraiment quelque chose.
C'est la moyenne 5, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont
exactement
besoin de plus aussi et d'autres
exactement
qui ont besoin de moins. Ouais.
Le plus important, c'est avoir la stratégie qui va bien pour mettre toutes les chances de son côté et arrêter de la manière qui soit la plus confortable possible.
D'accord. Donc, moi, j'avais arrêté quand même 2 ans et demi la dernière fois et j'ai repris, mais je ne suis pas un cas désespéré, c'est possible encore pour moi.
Alors d'abord, vous n'êtes pas du tout un cas désespéré parce que finalement, le fait que vendredi, vous fassiez cette 5e tentative d'arrêt du tabac, c'est le signe que vous êtes très déterminé, que vous faites des choix très positifs pour votre santé.
Vous avez vu comme il me lance des fleurs, finalement, je suis une fumeuse et finalement, et il me dit que je suis quelqu'un de bien. Donc
et c'est donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, il faut vous féliciter de votre détermination et il faut vous encourager pour que vendredi, au fond, votre arrêt du tabac, il se fasse de manière tranquille avec les encouragements de votre famille, de vos collègues, de vos amis, etc., etc.
Bon, alors on arrête de faire ma consultation perso, on passe à tous les fumeurs qui nous écoutent, qui vont se lancer vendredi. D'abord, il ne reste plus grand-chose là pour se préparer. On a 2 jours hein, du Mois Sans Tabac, c'est pas trop tard parce que... Mais bon, enfin, un arrêt, en tout cas, ça se prépare. Comment on prépare cet arrêt-là vendredi? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a décidé de se lancer?
Pour bien préparer son arrêt du tabac, je crois le plus important, c'est de faire le point sur sa dépendance, notamment sa dépendance à la nicotine. Quand on est très dépendant à la nicotine, c'est important d'avoir un traitement qui permet de ne pas souffrir du manque. Le principal traitement qui permet de gérer cette dépendance à la nicotine, ce sont les traitements de substitution nicotinique, les patchs, les gommes, les pastilles. Tous ces traitements sont efficaces et ils sont maintenant remboursés par la Sécurité sociale.
On va en reparler après, Jimmy.
Et il y a des patients qui arrivent à, ou des gens, pardon, qui arrivent à s'arrêter de fumer sans rien, sans patch, sans substitut, quel qu'il soit.
Bien sûr, il y a des fumeurs qui arrivent à s'arrêter sans rien. Il y a des fumeurs, y compris des très gros fumeurs, qui décident du jour au lendemain d'écraser leur dernière cigarette et d'arrêter. Certains y arrivent, ils ne sont pas très nombreux, parce que bah, quand on est très dépendant, encore une fois, le manque, c'est quelque chose qui est très fort et qui fait que l'arrêt est très inconfortable et que dans les premières heures qui suivent l'arrêt, souvent, on reprend. Mais donc, au fond, un fumeur qui voudrait essayer d'arrêter sans rien, il a raison d'essayer.
Combien arrivent à peu près sans rien ?
On considère qu'il y a à peu près 3% des fumeurs qui réussissent leur tentative d'arrêt du tabac sans aucune aide.
L'immense majorité aura besoin d'une aide.
Exactement. Une aide, ça augmente les chances de réussir son arrêt du tabac. Et puis surtout, ça rend l'arrêt du tabac plus confortable. Les fumeurs qui ont déjà fait une tentative d'arrêt du tabac, ils le savent qu'arrêter de fumer, c'est difficile. Et ben, on n'a pas de raison de vouloir souffrir en arrêtant de fumer. On peut arrêter de fumer d'une manière confortable en ayant le bon traitement.
Alors je crois qu'une des façons de se préparer, c'est finalement de dire, de crier sur tous les toits qu'on va arrêter de fumer. C'est ce que j'ai fait moi aujourd'hui, vous avez vu.
Exactement.
Pourquoi ?
Informer ses proches de son arrêt du tabac, ça permet au fond d'éviter des situations où on va vous proposer des cigarettes, où on va fumer devant vous. Et puis ça permet aussi d'avoir les encouragements, le soutien de tous ses proches. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est très important.
Alors on va commencer à détailler juste l'intérêt d'efficacité de certains substituts. Par exemple, les patchs, vous disiez, juste ils sont efficaces à combien de pourcents ?
Alors les patchs, ils augmentent de 50% les chances de réussir son arrêt du tabac. Donc plus 50%, évidemment, c'est énorme. Donc ça augmente les chances de réussir son arrêt du tabac. Pourquoi ? Parce que justement, ça prend en charge, ça règle cette question de la dépendance à la nicotine qui fait que beaucoup de fumeurs risquent en tout cas de reprendre la cigarette très peu de temps après avoir arrêté.
Merci Olivier Smadja. On va poursuivre sur les patchs et les autres moyens. On va poursuivre cet entretien très vite. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on continue à vous donner toutes les astuces, les conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour arrêter de fumer. On parlera des consultations chez le tabacologue, de la cigarette électronique aussi qui peut aider les fumeurs. Le mois sans tabac, ça commence vendredi et arrêter juste un mois déjà, ça multiplie par 5 vos chances d'arrêter pour de bon. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Olivier Smadja, tabacologue et surtout responsable de Tabac Info Service à Santé Publique France. Alors, on vient de parler un petit peu de l'efficacité des patchs, mais je crois qu'il peut y avoir aussi un intérêt à combiner les patchs avec d'autres substituts nicotiniques comme les gommes, les pastilles, tout
bien
ça.
Bien sûr, ce sont tous les traitements de substitution nicotinique qui augmentent les chances de réussir son arrêt du tabac de 50%. Et pour que ces traitements de substitution nicotinique soient le plus efficaces possible, on recommande aujourd'hui d'associer plusieurs formes. Classiquement, on conseille d'associer des patchs avec des pastilles ou des chewing-gums à la nicotine. Parce qu'en fait, quand on se patche, cette mode d'administration de la nicotine permet une diffusion lente de la nicotine. Donc, pendant 16 ou 24 heures, on va avoir de la nicotine dans l'organisme. On va moins être sensible au manque. Mais les fumeurs, ce qu'ils appréciaient aussi dans le fait de fumer, c'est d'avoir des pics de nicotine dans l'organisme. Et pour retrouver cet effet de pic, au moment où on a envie de fumer, on peut prendre une pastille ou un chewing-gum à la nicotine.
Et on est d'accord que la nicotine, c'est pas ce qui est le plus dangereux pour la santé. Moi, j'ai souvent des patients qui ont peur de prendre des patchs en disant « je ne veux pas de nicotine », nicotine qui est déjà présente dans la cigarette.
La nicotine, ça n'est absolument pas dangereux pour la santé, donc on peut de toute façon la prendre via les médicaments de substitution nicotinique. Les substances qui sont dangereuses dans la cigarette, ces substances sont liées au fait que la cigarette brûle, c'est lié à la combustion, et ces substances, ce sont les goudrons, le monoxyde de carbone et les irritants bronchiques. Ces trois familles de substances sont à l'origine des cancers, des maladies respiratoires et des maladies cardiovasculaires.
Et le gros avantage aussi avec les substituts nicotiniques, c'est que maintenant, ils sont remboursés intégralement, c'est ça ?
Aujourd'hui, ces médicaments sont remboursés comme n'importe quel médicament. Donc, il suffit d'avoir une ordonnance pour bénéficier du remboursement par la Sécurité sociale et sa mutuelle. Et cette ordonnance, elle peut être établie par des médecins, mais aussi par d'autres professionnels de santé, des sages-femmes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes. Tous ces professionnels de santé peuvent prescrire les traitements de substitution nicotinique.
Et si j'en ai besoin pendant 2 ans ?
Et si vous en avez besoin pendant 2 ans, vous pouvez pendant 2 ans être remboursé de ces traitements.
Génial. Jimmy ?
Alors, c'est vrai qu'on a parlé des patchs, mais aussi la cigarette électronique. Alors, bon, les études prouvent, en tout cas moi, ce que j'avais lu, que c'était efficace dans l'arrêt du tabac. Est-ce que vous confirmez ça ? Est-ce que c'est plus efficace que les substituts nicotiniques, la cigarette électronique ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai, on pense que la cigarette électronique, ça peut constituer une aide pour aider les fumeurs à s'arrêter de fumer. On n'a pas encore exactement le même niveau de preuve parce que la cigarette électronique, c'est un outil qui est beaucoup plus récent que les patchs et les gommes à la nicotine. Donc, on ne peut pas encore dire que c'est plus efficace ou moins efficace. C'est je dirais, la perception qu'on peut avoir à la lecture des études récentes.
On a l'impression qu'il y a beaucoup de fumeurs qui ont arrêté quand même avec. Hein. Moi, j'ai des témoignages autour de moi, beaucoup.
Tout à fait. Beaucoup de fumeurs disent avoir arrêté avec la cigarette électronique. C'est la raison pour laquelle on pense que c'est un outil efficace. Je dirais l'inconvénient de la cigarette électronique, c'est qu'elle a un coût. Et donc,
beaucoup moins cher que le tabac quand même. Hein.
Beaucoup moins cher que le tabac, c'est vrai. Mais malgré tout, elle est plus chère que d'autres stratégies d'arrêt du tabac. Voilà, elles sont remboursées par l'assurance maladie.
Et sur tout ce qu'on a entendu aux États-Unis, il y a eu quand même une grosse polémique. Là, en tout cas, enfin, des annonces qui nous sont venues de là-bas, qui parlaient donc de décès, de cas de pneumopathie. En France, on a repéré des cas comme ça, liés à l'usage de la cigarette électronique.
Effectivement, aux États-Unis, il y a cette épidémie de pneumopathie. Je crois qu'il y a aujourd'hui environ 1600 cas qui ont été recensés, quasiment 35 décès. En France, il n'y a pas d'épidémie qui a été constatée.
Il n'y a pas de cas, même.
Il n'y a pas d'épidémie. Donc, on considère que le sujet est différent. C'est clair que les modalités de vente et de fabrication des cigarettes électroniques sont différentes en France et aux États-Unis. En France, on a une logique de certification des matériels de vapotage et des produits qui sont vapotés. Et donc, on pense que ça permet de protéger les vapoteurs de produits qui sont susceptibles d'être toxiques.
Pardonnez-moi, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais ce n'est pas très clair. Moi, j'aimerais qu'on dise aux gens si oui ou non, ils peuvent continuer de fumer leur cigarette électronique ou s'ils doivent revenir à leur cigarette classique. Parce que dans la tête des gens, ils sont quasiment convaincus que la cigarette classique est moins dangereuse que la cigarette électronique du fait de cette épidémie aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais on a quand même l'impression que c'est un mésusage des huiles qui ont été rajoutées, des produits. Mais à l'heure actuelle, vous surveillez les éventuels effets secondaires et on a suffisamment de recul pour dire qu'il n'y a pas de risque pour les patients.
Alors, le ministère de la Santé a mis en place un dispositif de surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épidémie de pneumopathie en France. Et donc, aujourd'hui, on n'observe pas d'épidémie.
Donc, vous continuez à la recommander.
On pense aujourd'hui que pour un fumeur, il est préférable de vapoter que de fumer. Voilà. Donc, les fumeurs qui se sont mis à vapoter et qui sont des vapoteurs exclusifs, ils ont raison de continuer à vapoter à condition d'acheter du matériel qui est certifié.
Donc, on peut aller effectivement acheter une cigarette électronique et se faire aider par ce dispositif en veillant bien à acheter ces liquides dans le circuit de distribution officiel. On consacrera d'ailleurs courant novembre une émission à la e-cigarette. Alors, on va passer quand même aux médicaments pour arrêter de fumer, notamment le fameux Champix. Est-ce que c'est efficace, ça ?
La varenicline, oui, c'est un traitement qu'on appelle de deuxième intention. Ça veut dire que c'est un traitement qu'on peut utiliser quand les autres stratégies ont échoué. Et ce traitement, la varenicline, c'est un traitement qui est très efficace dans l'arrêt du tabac, qui est lui aussi remboursé par la Sécurité sociale, mais lui qui est sur prescription médicale uniquement. Donc seul le médecin peut prescrire la varenicline.
C'est plus efficace encore que les patchs, je crois, en termes d'efficacité.
Le niveau d'efficacité est un peu supérieur puisqu'on est autour de plus 60% de réussir son arrêt du tabac. Mais simplement, c'est ce qu'on appelle un traitement de deuxième intention.
D'autant plus qu'il y a des effets secondaires potentiels, notamment en cas de syndrome dépressif. C'est pas réservé non plus à tout le monde.
Alors, ça n'est pas réservé à tout le monde, mais globalement, les effets indésirables de ce médicament sont aujourd'hui bien contrôlés. On sait qu'il est déconseillé, par exemple, aux personnes, comme vous le disiez, qui ont des troubles anxio-dépressifs. Il n'est pas destiné aux femmes enceintes, il n'est pas destiné aux mineurs, mais je dirais, pour les fumeurs les plus accros à la cigarette et qui ont fait plusieurs tentatives d'arrêt du tabac, ça peut être une bonne idée d'essayer d'arrêter avec la varenicline.
Bon, est-ce que se faire aider par un tabacologue, et donc par exemple, en ligne, sur Tabac Info Service, est-ce que ça aide vraiment ? Est-ce que vous avez mesuré l'efficacité de vos services, justement ?
Se faire aider par un professionnel de santé, se faire aider par un tabacologue, c'est une excellente idée, parce que le tabagisme, ça n'est pas qu'une question de dépendance à la nicotine, c'est aussi une dépendance comportementale, une dépendance psychologique. Donc l'accompagnement par un professionnel de santé, c'est une aide formidable, une aide qui augmente beaucoup les chances d'arrêter de fumer. Et le service qu'on propose à Tabac Info Service, que ce soit au 3989 avec le service téléphonique ou via notre application smartphone, notre communauté sur Facebook, tous ces dispositifs, eux aussi, augmentent les chances d'arrêter de fumer. On a mesuré l'efficacité du 39-89. On sait qu'on est quasiment à 25% de succès dans le sevrage tabagique 6 mois après avoir appelé le 39-89. C'est un très bon résultat.
Et donc Mélanie va arrêter au 1er novembre de fumer. Est-ce qu'au 2 novembre, elle peut déjà ressentir
des effets?
Ressentir des effets de son arrêt du tabac.
Oui, il y a des effets liés à l'arrêt du tabac qu'on peut observer dès les premiers jours de l'arrêt. Par exemple, le fait de commencer à retrouver le goût et l'odorat. Ça, ce sont des effets positifs qui
vous
se manifestent.
Vous verrez avec plein de sandwichs.
Très tôt. Évidemment, le corollaire de cet effet bénéfique, c'est qu'il faut aussi contrôler un peu l'alimentation.
C'est la grosse crainte, hein, quand même, surtout pour les femmes. Enfin, je ne sais pas, en tout cas pour moi.
Et
moi, je sais que la peur
aussi,
de grossir, c'est.
Hommes aussi ont peur de grossir. Ce qu'on peut conseiller souvent, c'est de.
D'arrêter de manger en même temps.
Alors, surtout ne pas arrêter de manger parce qu'on a faim, c'est normal.
Évidemment.
Et donc, contrôler et le tabagisme et l'alimentation en même temps, c'est difficile. Mais par contre, faire un petit peu plus d'activité physique, varier ses repas, introduire plus de fruits et de légumes dans son alimentation. On peut ne pas grossir. Donc, ce que je dirais, c'est que parmi les effets bénéfiques, le goût, l'odorat sont vraiment les effets qu'on ressent très tôt. Mieux respirer, ça fait aussi partie des effets bénéfiques qu'on ressent très tôt. Et puis, il y a un effet bénéfique qu'on ressent dès l'arrêt de la première cigarette, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas en fumant.
Oui, ça c'est sûr. Et donc le bénéfice financier, il est énorme. Par exemple, moi je fume 10-15 cigarettes par jour. À la fin de la semaine, ça fait quand même un sacré budget. Avec votre petit cercle là, qu'on
avec
reçoit dans
le disque qui permet de calculer ses économies, bien sûr.
On sait combien on économise en moyenne un fumeur.
Si par exemple vous fumez 15 cigarettes par jour, aujourd'hui le prix moyen d'un paquet c'est 8,50 €. Dans deux jours, le prix moyen d'un paquet ce sera 9 €. Ça veut dire que vous dépenserez environ 6,75 €, 7 € par jour en cigarettes. Ça veut dire qu'en un mois de tabagisme, vous économisez 200 €. 200 €, c'est énorme.
Paires de chaussures,
qu'est-ce que vous pourriez faire avec 200 €?
Et à l'année, 2 400 €, donc quasiment 2 SMIC.
Exactement.
Qui partent en fumée.
Exactement.
Je suis sûr qu'on est convaincu déjà pas mal de fumeurs de se lancer vendredi. On peut dire aussi finalement que le plus difficile, c'est la première semaine, les premiers jours. C'est quand le plus difficile?
Le plus difficile, c'est les premiers jours qui suivent l'arrêt de la cigarette, parce que ce sont les jours pendant lesquels, notamment, on va être les plus confrontés au manque, parfois le manque de nicotine si on n'a pas le bon traitement, mais aussi le manque lié aux habitudes qu'on a prises avec la cigarette. Et donc, ces premiers jours sont les jours pendant lesquels on va être le plus en risque. Ça veut dire aussi que ce sont les jours pendant lesquels, quand on fait une tentative d'arrêt du tabac, on a le plus besoin d'être chouchouté par son entourage pour tenir bon pendant ces premiers jours.
J'ai compris, Jimmy, hein. À partir de vendredi, chouchouter Gomez.
Oui, bah dites ça à votre mari. Hein.
D'accord, chouchouter, mais aussi, il y a des pièges, c'est-à-dire on vire les briquets, on vire les cendriers, j'imagine. On prend plus le café le matin, parce que café-cigarette, par exemple, moi, c'est vrai que c'est une association dès le réveil qui est automatique. Donc je change, je bois du thé.
Vous avez tout à fait raison. Il y a simplement des choses qu'il faut faire avant. Par exemple, jeter ses briquets, ses cendriers, ses allumettes. Tout ça, il faut le faire avant le jour que vous avez choisi pour arrêter de fumer. Et puis, il y a les choses qu'il faut modifier une fois qu'on a arrêté de fumer. Par exemple, si on a l'habitude de fumer une cigarette en buvant un café pendant les premiers jours de son arrêt du tabac, il vaut mieux éviter le café parce que ce café, il va appeler dans le cerveau la cigarette. Et donc, on peut essayer de prendre son café à un autre moment. On peut essayer de ne pas boire de café en préférant, comme vous le disiez, du thé, par exemple, parce que ce simple changement, ça va modifier les associations qui se sont faites dans le cerveau.
Juste pour terminer, on rappelle quand même qu'en France, ça n'a jamais été aussi ringard de fumer. On est d'accord, des fumeurs, il y en a vraiment de moins en moins.
Il y en a de moins en moins. L'image du tabac, elle s'est très dégradée dans l'opinion publique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est le tabac qui est ringard, ce ne sont pas les fumeurs. Les fumeurs, ils sont victimes de leur dépendance. Et donc, les fumeurs, ils ont surtout besoin qu'on les aide à passer le pas de l'arrêt du tabac.
Merci beaucoup Olivier Smadja d'être venu sur notre plateau. J'espère qu'on a convaincu encore plus de fumeurs de participer à cette opération.
Merci.
Moi
à
sans
vous.
Tabac, merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la chlamydia, une infection sexuellement transmissible, une IST en forte augmentation en ce moment. On fera le point sur son dépistage et bien sûr sur son traitement. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une IST, une infection sexuellement transmissible, la chlamydia. Alors de quoi s'agit-il précisément? Quels sont les symptômes? Qu'en savez-vous? Benjamin Lévesque a été vous poser la question. On écoute son micro-trottoir.
Une chlamydia, c'est une maladie sexuellement transmissible.
C'est encore une MST, ce truc-là, je crois. Je crois que c'est les femmes qui attrapent la chlamydia quand elles ont eu un rapport sexuel non protégé.
Vous avez du pus, en fait, par rapport à cette chlamydia.
C'est une sorte de liquide un peu purulent qui sort de la verge, du gland. Et ça picote à l'intérieur.
J'ai déjà eu une infection urinaire, je sais pas si c'était lié à ça ou pas, mais...
Non, je pense pas que les hommes puissent attraper la chlamydia.
On la détecte, on peut, par une prise de sang qui nous dit voilà, si c'est positif ou négatif au niveau de la chlamydia.
On m'a donné des antibiotiques pour que ça s'en aille, ça va en deux jours, c'est fini. Sauf que là, c'est pas parti. Et en fait, j'étais résistant... à cet antibiotique-là précisément, donc on a donné un autre et ça a été très bien après.
Du coup, je pense pas qu'il y ait un vaccin qui existe pour la chlamydia.
Du coup, il faut se protéger, donc capote quoi.
Capote quoi, oui effectivement, c'est souvent le bon réflexe. Alors Jimmy, d'abord on va revenir un tout petit peu en arrière, l'infection à chlamydia c'est quoi précisément?
Alors déjà c'est pas chlamydia, c'est chlamydia trachomatis.
Oh là là, donc, utilisez le nom le docteur, là,
et bon, oui, c'est Mélanie Gomez, ouais. C'est chlamydia trachomatis, Jimmy Mohamed, on dit les choses telles qu'elles sont. Et donc c'est une bactérie qui est très répandue, d'ailleurs les gens sont très informés là je trouve, ils savent très bien ce que
ça
c'est.
Ça fait flipper quand même. Ouais.
Bah, c'est une infection qui touche plutôt les jeunes de moins de 25 ans, donc effectivement c'est une infection sexuellement transmissible et elle peut se développer même en l'absence de tout symptôme, donc on la remarque pas forcément. Elle touche les hommes et les femmes. Et le problème, c'est qu'au-delà des petits symptômes qu'on peut avoir, elle peut entraîner des complications. C'est une des premières causes de stérilité en France.
Ah oui, quand même.
Notamment chez la femme.
Ah oui, donc ça, on va en parler. Alors ça se transmet comment? On dit que c'est une IST. Donc bon, on ne va pas faire un dessin. J'imagine que c'est les rapports sexuels.
Oui, c'est lors des rapports sexuels. Alors, rapports sexuels, quels qu'ils soient, ça peut être lors de pénétration vaginale, anale, la fellation, et un peu moins fréquemment au moment du cunnilingus. Alors c'est plutôt très fréquent. On estime qu'en 2016, le nombre de personnes diagnostiquées à cette infection a été estimé à plus de 270 000.
Ah oui, c'est beaucoup.
Imaginez,
quand même.
Donc c'est pas mal. Et la prédominance de cette infection est constatée plutôt chez les femmes.
Ah bon ?
Et les jeunes femmes de 15 à 24 ans, notamment en Île-de-France et dans les départements d'outre-mer.
D'accord. Et quels sont les symptômes? Alors, vous dites qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais qu'on va avoir. Est-ce qu'il y a quand même quelques signes qu'on peut voir et qui peuvent faire penser qu'on a cette infection?
Alors, chez la femme, puisqu'elles sont finalement les premières touchées, elle peut avoir des petites pertes blanches, malodorantes, des douleurs abdominales, des douleurs au moment lors de la miction, un col qui serait un peu inflammatoire et un peu saignant. Et puis surtout, elles peuvent ne jamais avoir de symptômes et s'en rendre compte au décours d'un épisode de stérilité lorsqu'elles cherchent à tomber enceinte. Et ça, c'est la cause sur le long terme. Et sur le court terme, il peut, lorsque cette infection se développe, entraîner une salpingite.
Oula,
donc une infection au niveau des trompes.
Salpingite.
Exactement, l'infection des trompes, qui donne de la température, des douleurs abdominales et pelviennes très importantes et pour lesquelles on est hospitalisé. Et parfois même opérer.
Ouais, c'est très sérieux quand même. Alors, on a parlé des femmes, mais les hommes aussi peuvent l'attraper, cette infection.
Oui,
chlamydia.
C'est ces écoulements un peu blanchâtres, pas très sympas lors du réveil. Souvent indolores, on n'a pas tellement de signes urinaires, à la différence de la chaude pisse, le gonocoque, qui donne des symptômes très bruyants. C'est juste un écoulement au niveau du zizi, tout simplement. Et puis parfois, il peut y avoir une petite inflammation au niveau du testicule, mais c'est plus rare. Donc globalement, si vous avez un écoulement, il faut vous faire dépister.
Bon, rassurez-nous, on peut guérir, il y a un traitement quand
même. Oui, un traitement antibiotique. Et il ne faut pas oublier que lorsque vous avez cette infection, vous êtes à risque d'avoir eu d'autres infections, le gonocoque, la syphilis, et à ce moment-là, on fait le bilan des infections sexuellement transmissibles. Une fois qu'on vous a prescrit les antibiotiques, on n'hésite pas à faire dépister son ou sa partenaire. Et puis surtout, on se protège, il faut mettre des préservatifs. C'est le seul moyen d'éviter cette infection, parce qu'on l'a dit, rapport anal, vaginal, et puis aussi lors de la fellation, donc il faut se protéger.
On met des capotes, effectivement. On sort couvert. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, on le rappelle une dernière fois, le meilleur rempart contre toutes les IST, c'est le préservatif, le premier réflexe pour se protéger.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des problèmes ponctuels d'érection qui peuvent néanmoins créer beaucoup d'angoisse chez certains hommes, alors que c'est finalement assez fréquent. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle rentre à l'instant dans le studio, Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Nicolas, 32 ans, je vous la lis. Il m'est arrivé de peiner à avoir une érection alors que la fille avec laquelle j'étais me plaisait beaucoup. Je l'ai vécu comme une humiliation, pourtant elle n'a pas semblé m'en tenir rigueur, outre mesure, même son silence, pourtant était pour moi humiliant. Alors Catherine, pour répondre à Nicolas, on est d'accord, un problème d'érection, c'est pas forcément lié au fait que la fille dans le lit lui plaise vraiment ou pas d'abord, non ?
Bah bien sûr que non, puisque dès lors que justement elle lui plaît, il y a beaucoup d'émotions qui viennent se mêler à un désir qui du coup est contrarié par cette émotion, ce désir de performance, et qui du coup a trop de désir de performance, a trop de désir de démontrer la légitimité de cette présence et son amour ou son intérêt ou son excitation. Bah de fait, la machine tout d'un coup contredit un peu les choses et la perte d'érection n'est pas rare du tout.
Donc c'est pas toujours la faute des filles, parce que c'est un peu ce qu'il essaie aussi de nous dire, entre guillemets. Il veut pas se dire c'est moi qui aurais un problème en fait. Peut-être qu'il faut qu'il se remette un tout petit peu en question, ça vient peut-être de lui, de trop de stress. Ou
voilà,
je sais pas.
Et donc il n'y a pas besoin d'être humilié, d'être vu comme ça. Je pense que c'est pas tellement qu'il a le sentiment que c'est elle qui en est à l'origine, mais plutôt qu'il est vu en difficulté. Or, on est tous régulièrement vus en difficulté. Et faire l'expérience d'être vu en difficulté et de voir qu'on n'en meurt pas, qu'on ne risque rien, c'est le meilleur moyen d'accepter nos temps de faille et donc d'accroître notre capacité de pouvoir par ailleurs. C'est-à-dire que notamment les jeunes hommes, ils ont tout leur corps qui est dans la tranquillité pour vivre tranquillement leur sexualité, mais ils veulent absolument montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont
tout
forts,
marche bien.
Qu'ils marchent super bien, sinon c'est trop la honte. Eh bien non, on peut être défaillant.
À n'importe quel âge, à n'importe quel jour.
Voilà, on n'en perd pas du tout sa capacité, on en est souvent, mais d'ailleurs d'autant plus touchant parce qu'on est un humain au milieu des humains. Et d'ailleurs, ça peut être très rassurant pour une fille qui se donnera aussi le loisir d'être à son tour défaillante le cas échéant.
Jimmy ?
Nicolas dit que son ami ne lui en tient pas rigueur. Néanmoins, il parle d'un silence qu'elle aurait eu et qui du coup l'a blessée. C'est quand même une réaction un peu particulière dans le silence.
Bien sûr, parce que dans le silence, on peut y mettre n'importe quoi, mais entendons aussi que ce puisse être dérangeant pour elle. Parce que pendant que lui, il se dit « Oh là là, la honte, parce que j'ai perdu mon érection »,
en fait,
elle dit « Oh là là, je ne suis pas désirable ». Donc en fait, chacun croit en sa responsabilité dans ce tout d'un coup truc qui ne se passe pas, alors que lui voudrait être rassuré, « Tu es beau, tu es fort », parce qu'il est préoccupé. Quant à sa confiance personnelle, mais elle est certainement dans la même difficulté de sa confiance.
Ah, s'il n'a pas d'érection, c'est à cause de moi. Donc voilà. Les deux, oh là là.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Et elle-même doit dire, oh là là, et il dit rien.
Et alors, il a raison.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les hommes
ça a l'air
qui...
de vous parler,
non, mais qu'est-ce que les hommes qui peuvent rencontrer cette situation de façon ponctuelle devraient faire pour éviter le malaise d'un côté comme de l'autre?
Je crois que l'humour est toujours la...
Sur une blague de Jean-Marie Bigard.
Ah, enfin, vous êtes alors drôle, Jimmy, donc ça nous sauvera toujours.
Non, on n'est pas obligé d'aller vers Jean-Marie Bigard, parce que d'abord, Bigard, c'est Bigard, et voilà. Il n'est jamais...
C'est pas très
bon
approprié dans ce genre de situation.
Et puis ça doit être très drôle
quand...
Et c'est très drôle quand c'est Bigard. Donc non, en fait, je crois que l'humour est toujours la meilleure des choses, mais pas une, c'est où on se moque de soi. L'autodérision est toujours intéressante en disant « Ah ben voilà, c'est au moment où on voudrait être formidable ». Je crois que dire la réalité, mais sous le ton d'humour, c'est au moment où on voudrait être formidable qu'on ne l'est pas. Eh bien voilà, on va se faire un Scrabble.
On n'est pas convaincu Mélanie là, l'humour non, ça semble pas...
Ah si, moi l'humour c'est vraiment ça m'aide dans tout hein, de toute façon, donc c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement de toute façon.
Et puis, femme qui rit, femme dans ton lit.
Voilà,
hein, donc,
exactement.
Voilà, ne nous disons pas que c'est accroître l'insécurité ou la défaillance, au contraire c'est la preuve d'une capacité à faire avec ça. Avec ça qui ne se passe pas. Et du coup, ça rend très viril en réalité.
Mais on peut dire aux hommes aussi que la plupart des femmes, en général, elles comprennent hein, que ça peut ne pas marcher de temps en temps.
Parce qu'elles sont à la même école.
Voilà,
elles sont
ça,
aussi elles-mêmes en difficulté.
Ça peut les rassurer peut-être de leur dire ça. On est d'accord, les femmes comprennent en général. Ça
voilà,
peut arriver.
Voilà, le truc, c'est qu'on a tendance à se dire t'inquiète pas, c'est pas contre toi.
D'ailleurs,
non, mais c'est pas
hommes,
toi.
Hein.
Et elle, mais non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. On n'est pas là à se dire c'est grave, c'est pas grave. C'est rendons-nous à l'évidence que là, ça ne fait pas, ce qui nous donne l'opportunité d'autre chose. Explorons, caressons-nous, embrassons-nous, jusqu'à ce que justement une érection soit au rendez-vous ou une lubrification, parce que ça peut être aussi.
C'est la femme que ça marche pas.
Bien sûr, et ça n'est pas grave du tout, ça marche pas. Ponctuellement, ça ne définit pas un être humain.
Une fois comme ça, il n'y a pas besoin de consulter non plus.
Ah non, arrêtons de vouloir consulter pour tout.
Elle veut pas de patient, Catherine Blanc.
C'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que rassurons les gens, on est tous défaillants. Ce n'est pas parce qu'on a une défaillance une fois, deux fois, trois fois qu'on se réduit à ça. Donc on n'est pas obligé d'envahir ou d'aller ou d'être dépendant des cabinets de thérapie diverses, bien qu'ils soient là, bien sûr, pour accueillir dans une récurrence trop importante qui accentue le doute quant à soi de trop fortement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré à la blépharoplastie. Vous vous demandez ce que c'est ? Eh bien, c'est l'intervention esthétique au niveau des paupières. On vous dira ce qu'il est possible de faire actuellement pour redonner un coup d'éclat à son regard. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipée sauvage. Je suis sûr qu'ils sont en pleine forme. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive. Toute l'équipe réunie autour d'Olivia Ruiz, vous connaissez évidemment la chanteuse, mais vous allez la découvrir actrice ce soir sur France 2 dans un téléfilm choc sur le mal-être policier en France. Olivia Ruiz est avec nous de 16h à 18h.
Merci beaucoup Mathieu, beau programme, bonne émission, restez sur Europe 1.